Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 30 août 2021. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères à Damas, l'essor des coopérations dans divers domaines étudié. Plusieurs roquettes ont été tirées sur l'aéroport international Ahmed Karzai de Kaboul, capitale afghane. Et en Algérie, les élections locales anticipées sont fixées au 27 novembre. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré le dimanche 29 août le président syrien Bachar el-Assad à Damas. L'entretien a porté sur les relations stratégiques entre les deux pays et les développements sur les deux scènes régionales et internationales. Les deux parties ont discuté de la coopération économique et commerciale et des moyens de faire face aux sanctions imposées par les pays occidentaux, principalement par les États-Unis. Les discussions entre les deux parties ont également porté sur les derniers développements régionaux et internationaux. M. Amir Abdollahian a informé M. Assad des résultats de la conférence sur la coopération et le partenariat. Les deux parties affirmant que l'avenir de la région devrait être déterminé par la volonté de ses habitants. Le président syrien a également souligné que la coopération continue entre la Syrie et l'Iran a donné des résultats positifs dans la protection des intérêts des deux pays et des deux nations, notamment dans la lutte contre le terrorisme. La Syrie continuera à combattre le terrorisme jusqu'à ce que tous les territoires soient libérés, a affirmé M. Assad. Le ministre iranien des Affaires étrangères a quant à lui souligné que Téhéran et Damas ont remporté de grandes victoires dans la guerre contre le terrorisme, réitérant le soutien continu de l'Iran à la Syrie et à son peuple pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. M. Amir Abdollahian a eu également une rencontre avec son homologue syrien, Faisal Mirdad. Après leur rencontre, lors d'un point de presse conjoint, le ministre iranien des Affaires étrangères a rappelé que les deux pays conçoivent un plan actif de promotion des coopérations économiques et commerciales pour faire face aux sanctions des ennemis. Toute mesure politique ou sécuritaire pour la région que ce soit ne pourra se réaliser qu'avec la présence de tous les pays de la région, y compris la Syrie. Quant à l'Afghanistan, le chef de la diplomatie iranienne a rappelé « Nous avons des consultations étroites au sujet des évolutions en Afghanistan. Nous croyons fermement que la formation d'un gouvernement élargi s'avère la solution politique que toutes les parties doivent prendre en considération. Sans aucun doute, la coopération des pays de la région peuvent contribuer à l'établissement d'une sécurité stable et durable dans la région », a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères. Pas moins de 5 roquettes ont été tirées sur l'aéroport international Ahmed Karzai de Kaboul, capitale d'Afghanistan. L'attaque n'a fait aucune victime pour le moment, rapportent les autorités américaines. Le système de défense SERAM installé à l'aéroport aurait intercepté les roquettes, disent les Américains. Les témoins oculaires disent avoir entendu 4 explosions. Une source de sécurité afghane indique que les roquettes provenaient du nord de Kaboul. D'autres ont déclaré que 3 roquettes avaient été placées dans un véhicule avant d'être tirées sur l'aéroport. L'attaque de ce lundi matin à Kaboul intervient au lendemain d'une attaque par drone américaine contre une maison dans le nord de Kaboul, faisant 9 morts, dont 4 enfants. En effet, les Américains ont frappé une maison à Kaboul. Ils disent avoir détruit un véhicule chargé d'explosifs afin de supprimer une menace imminente de Daesh-K contre l'aéroport. Le véhicule piégé a été détruit alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport, disent-ils. Mais une deuxième frappe a atteint une maison située à proximité. 9 membres d'une famille, dont 4 enfants, ont été tués dans cette frappe. Les Américains disent avoir répliqué à l'attentat de jeudi aux abords de l'aéroport de la capitale afghane, revendiqué par Daesh-K, attentat qui a fait une centaine de morts, dont 13 militaires américains et 2 britanniques. Les talibans n'estiment pas nécessaire la création d'une zone tampon à Kaboul, ce qui a été proposé samedi par le président français Emmanuel Macron. La France et le Royaume-Uni vont plaider lundi à l'ONU pour la création à Kaboul d'une « safe zone », une zone protégée qui permettra la poursuite des opérations humanitaires, a déclaré Macron, un projet qu'il a jugé totalement réalisable. Or, le porte-parole des talibans, Suhail Shahin, a déclaré que l'idée d'une zone protégée autour de l'aéroport n'a pas lieu d'être. Il assure que les Afghans pourront librement prendre l'avion après le 31 août s'ils disposent d'un passeport et d'un visa. En Syrie, 2 éléments des forces de la sécurité intérieure sont tombés en martyr dans une attaque terroriste au Baal contre un poste garde dans le quartier de Marabetta Hama. Une source du commandement de la police à Hama a déclaré à Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que 2 personnes camouflées qui étaient à bord d'un motocyclette avaient tiré le feu à l'op sur un poste garde dans le quartier de Marabat, faisant 2 martyrs. Et à des heures, les FTS, Forces démocratiques syriennes, soutenues par les forces d'occupation américaines, ont mené une campagne de perquisition dans le village de Kassar et la localité de Jadid Akidat et y ont enlevé un certain nombre de civils. Dans la bande de Gaza, les Palestiniens poursuivent leurs manifestations et rassemblements nocturnes pour crier leur colère envers le régime sioniste. Les Palestiniens ont participé dimanche soir 29 août, comme les nuits précédentes, aux manifestations qu'ils ont appelées la colère nocturne dans la région d'Abu Safiya. Simultanément à ces manifestations, les militaires israéliens ont tiré des éclairants. Les groupes de la résistance palestinienne à Gaza ont annoncé samedi après-midi que le délai fixé au régime sioniste pour mettre un terme au blocus de Gaza est expiré sans qu'aucun changement ne soit introduit dans la situation de la région. Les manifestations seront donc désormais plus sérieuses. On commence par l'opération de la colère nocturne dans l'est de Gaza et dès dimanche, les ballons incendiaires et contenant des explosifs seront de retour, ont annoncé ces groupes. Le QG des groupes de la résistance palestinienne a aussi mis en garde le régime sioniste contre toute attaque visant les jeunes palestiniens. Israël paierait lourd une telle faute comme il ne l'a jamais vue. Tout au long de ces 3 derniers mois, le régime sioniste a refusé de respecter et remplir ses engagements, à savoir réduire le blocus, permettre l'entrée des matériaux et marchandises, aussi bien que des aides financières à Gaza. On espère que les tergiversations israéliennes aboutissent à une nouvelle vague d'affrontements et de conflits en Palestine occupée, dit Israël. En France, à compter de ce 30 août, le pass sanitaire devient obligatoire au travail pour les salariés en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées ou encore les trains grandes lignes. Après tout, les clients devaient déjà montrer patte blanche avant d'entrer dans un restaurant, un bar, une salle de cinéma et autres musées. Désormais, celles et ceux qu'ils croiseront dans ces lieux devront pouvoir prouver à leur employeur qu'ils ont soit testé négatif, guéri du Covid ou vacciné. Un dispositif en place dans toute la France jusqu'au 15 novembre. Cette obligation de contrôle du pass sanitaire concernera aussi les bénévoles intervenant dans tous les lieux, établissements, services ou événements listés par le ministère du Travail, notamment les bars, théâtres, cars ou avions interrégionaux, parcs d'attractions, zoos, foires et certains centres commerciaux. À partir du 30 septembre, les salariés mineurs, y compris les apprentis, devront aussi être à jour. Au total, plus de 2 millions de salariés seront concernés par cette obligation. Les employés dépourvus de ce sésame pourront soit prendre des congés, soit télétravailler, soit être affectés à un poste ne nécessitant pas de passe ou être suspendus sans solde. L'Algérie a fixé la date du 27 novembre prochain pour organiser des élections locales anticipées. À cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a convoqué le corps électoral, a indiqué dimanche dans un communiqué la présidence de la République. Le président a signé samedi 28 août un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections anticipées des assemblées populaires communales APC et de Wilaya provinciale APW prévues pour le samedi 27 novembre, précise le texte. Par ailleurs, le décret prévoit la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 5 au 15 septembre. Les assemblées qui siègent actuellement au niveau des assemblées communales et celles au niveau de Wilaya devraient continuer à le faire jusqu'au mois de novembre 2022, puisqu'elles sont élues le 23 novembre 2017 pour un mandat de 5 ans. Le 4 août, la présidence a annoncé que si les conditions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 le permettaient, l'Algérie organiserait les prochaines échéances locales prévues en novembre. Avec l'organisation des élections locales, les Algériens boucleront avant la fin de l'année en cours le cycle des échéances électorales sous le président Tebboune. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, redoutable deal Égypte-Hezbollah. La vidéo publiée du sommet régional de Bagdad comporte une scène inouïe qui intrigue les analystes bords. Un haut diplomate iranien, en l'occurrence, nouveau ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, discutant avec application avec le président égyptien. Mais de quoi les deux parties pourraient bien s'être entretenues alors même que les liens Téhéran-Le Caire, largement impactés par l'alliance Égypte-USA-Israël, peinent à être remis sur les rails et à trouver le poids et la direction qu'ils méritent. Peut-être du canal de Suez et du passage imminent de trois pétroliers iraniens qui, chargés de fioul et d'essence, font route en ce moment même en direction de Beyrouth. Comme on a fait l'annonce et par trois reprises, le secrétaire général du Hezbollah depuis 19 août. La chaîne libanaise Elbessa affirme en effet avoir des informations comme quoi les trois pétroliers que traquent toutes les sociétés satellites et radars américano-sionistes actives dans la région se trouveraient à quelques pâtés du stratégique canal égyptien que le Caire n'a d'ailleurs jamais bloqué sur une quelconque cargaison pétrolière de l'Iran. Même au plus fort des sanctions anti-Iran qui sous Trump se sont même illustrées par l'attaque commando britannique contre le tanker Krasan à Gibraltar. Eh bien, cette sympathie qui renverrait probablement au respect qu'alimentent les donations iraniennes et égyptiennes l'une envers l'autre, mais aussi au soutien patent de l'Égypte à l'État et l'armée syrien, ou encore à sa compréhension de plus en plus large à l'adresse de la résistance palestinienne, et ce, parce que la normalisation avec Israël n'a eu aucun impact positif de quelque manière que ce soit sur l'Égypte, si ce n'est le fait de laisser les coudées franches à Tel Aviv et au Mossad pour qu'ils implantent Daesh au Sinaï et qu'ils y fassent saigner périodiquement l'armée égyptienne ou qu'ils cherchent par Éthiopie interposée à priver deux tiers de l'Égypte des ressources hydrauliques du Nil et on en passe. A d'ailleurs valu au Caire l'un des plus curieux tiramis de ces dernières années signé US-Israël, à savoir l'affaire de l'Ever Given, ce super cargo qui a bloqué pendant 7 jours le canal de Suez, qui a infligé des milliards de dollars de pertes à l'économie égyptienne, alors même que les alliés arabes et occidentaux du Caire lui refusaient la moindre assistance et que même les sionistes, tout comme russes et américains, proposaient proposer des voies alternatives pour faire remplacer cette voie stratégique. Le président égyptien n'est pas né de la dernière pluie et il comprend parfaitement évaluer à sa juste mesure cette bataille acharnée de la résistance contre l'axe US Israël qui n'en déplaise à l'Arabie des Salman va dans l'intérêt de tous les États-nations de la région. Dans les jours et les heures à venir, et il est donc fort possible que la Méditerranée orientale soit la scène d'un méga clash, vu que la bataille navale US-Israël résistance, commencée en 2019, entre dans sa sprint finale en reliant le golfe Persique à la Méditerranée et surtout à Beyrouth, via un corridor maritime énergétique qui, toute raison gardée, ne tarderait pas à prendre un aspect commercial, puis est peut-être en même temps un aspect militaire. Si les bâtiments iraniens sont visés, la riposte ne tardera pas et elle serait à plus forte raison de la même nature que le coût, à savoir énergétique. Ceci veut dire que les missiles anti-navires, les sous-marins et les commandos du Hezbollah, tout comme cette partie encore inconnue des armements navals de la résistance qui pourrait inclure évidemment des drones à sens unique et bien d'autres choses, viseront Tamar et Leviathan qui, pour le grand bonheur du Hezbollah, ne se trouvent qu'à 35 km du sud du Liban. Et quelle sera la réaction égyptienne? La neutralité ou la complicité?
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 28 août 2021. Bagdad et Paris co-organisent ce week-end un sommet régional avec objectif annoncé de désamorcer les tensions dans la région et de trouver des terrains d'entente entre des pays en désaccord. Du côté de la République islamique d'Iran, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé ce samedi à Bagdad pour participer à ce sommet, où est également en effet arrivé le président français Emmanuel Macron. Outre Macron, seul acteur extra-régional, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et le roi Abdallah II de Jordanie sont également présents à ce sommet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le roi Salman d'Arabie Saoudite ont été également conviés à ce sommet, mais ils pourraient envoyer en effet des représentants. Alors, le fait marquant de ce sommet, selon une source irakienne, en effet, c'est le fait que le président français Emmanuel Macron, en effet, avait refusé à son homologue syrien d'être invité à assister au sommet de Bagdad. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher des enjeux et objectifs de ce sommet. Les messages de la présence du président français et bien entendu les résultats qui pourraient sortir de ce sommet. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Les préparatifs de Bagdad pour accueillir un sommet régional des pays voisins de l'Irak avec un certain nombre de pays occidentaux concernés ont connu un revers précoce à la lumière du déclenchement d'un différend interne irakien sur l'invitation de la Syrie à y participer après que des pressions occidentales ont été exercées sur Bagdad de s'abstenir de lancer cette invitation, craignant un retour victorieux de Damas dans les arènes régionales et mondiales. Le journal libanais Al-Akhbar écrit « L'idée du sommet qui est censé réunir les acteurs régionaux et mondiaux les plus importants semble trop belle pour être réaliste. » Le premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi réparera-t-il au cours des deux derniers mois de son gouvernement ce qui a été gâché par les époques de guerre et de durs conflits au Moyen-Orient qui ont laissé des inimitiés amères? Vu sous cet angle le sommet qu'al-Kazemi a appelé à tenir à Bagdad le 28 août pour un certain nombre de pays voisins de l'Irak et les pays concernés dans le monde ne correspond pas beaucoup aux espoirs placés en cette initiative, d'autant plus que ce plan a connu un recul précoce en ce qui concerne l'échec de l'invitation faite à la Syrie à y participer en raison des conflits internes irakiens sur cette question qui ont été rendus publics ces derniers jours. Il existe de nombreuses affinités entre Bagdad et Damas au sujet des dossiers sensibles, mais le premier ministre irakien a été sous les pressions occidentales pour ne pas inviter les Syriens à cette réunion. Mais étant donné les conflits qui ont lieu entre différents pays, comme ceux invités au sommet, même une simple rencontre est un grand développement. En effet, l'idée du sommet en soi est belle dans la mesure où la plupart des observateurs étaient terrifiés jusqu'au dernier moment par la possibilité de son annulation, de son report à une date ultérieure inconnue, de la réduction du niveau des représentations ou du boycott éventuel par certains pays. Quant aux dossiers lourds et aux problèmes chroniques, ils sont négociés au niveau bilatéral ou tripartite. Si ces problèmes ne sont pas résolus à ces niveaux, ils ne seront pas résolus non plus lors d'un sommet qui durera seulement un ou deux jours. Néanmoins, l'événement peut être l'occasion de rencontres qui peuvent sortir la région de l'impasse et des hostilités.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. On va tout de suite commencer ce débat avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est en ligne avec nous depuis Damas. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour l'invitation.
Donc, alors une première question, comme vous savez très bien, ce week-end se tient à Bagdad, oui, un sommet régional, un sommet co-organisé avec Bagdad et Paris. Alors, à première vue, il s'agit là d'une initiative constructive, mais le fait que, alors, un acteur régional important comme la Syrie est absent, donc n'augure rien de bon, Mme Idani. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce sommet, Mme Idani?
En fait, effectivement, encore une fois, un sommet qui va peut-être parler de la Syrie, mais qui est concerné, la Syrie est concernée, puisque ce sont tous les pays autour du voisinage de l'Irak comme c'est affiché au niveau du sujet du sommet, qui sont là. Je pense que c'est une grande erreur que la Syrie soit exclue, ne soit pas invitée, bien que le président du Hashd al-Sha'bi, al-Fayyad, ait rendu visite au président Assad, lui portant aussi une lettre du premier ministre Kazemi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que c'est aussi la présence de la France, qui n'est pas un pays du voisinage et qui invite à ce congrès, à cette réunion, est plutôt bizarre, en fait, parce qu'on voit à nouveau pointer l'impérialisme français ou la France qui veut se positionner quelque part dans les solutions qui seront trouvées dans la région. Donc la France se cherche un pied dans la région aussi, ou une influence quelconque. Comme d'ailleurs elle l'a fait au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, pour montrer qu'elle peut effectivement faire quelque chose, mais en réalité, un an après, on voit que la France n'a rien pu faire et n'a rien fait. Au contraire, elle n'a fait que compliquer les situations et complexifier les choses, même au niveau intérieur. On voit aussi que au niveau intérieur, ce sont les Américains qui dirigent. Au niveau Liban, en fait, les Américains essayent de contrer toute solution qui se présente. Maintenant, par rapport à l'Irak, je pense que l'initiative est positive puisque c'est bon. Il y a tous les pays qui ont aussi agi pour soutenir le terrorisme en Irak comme en Syrie, qui sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, bien qu'ils aient des dissensions entre eux, ils sont là. La Turquie est là aussi, puisque la Turquie aussi a créé et envahi une partie, elle a envahi une partie de l'Irak, elle a bombardé pas mal aussi des positions irakiennes, mais soutient aussi des factions terroristes en Irak. On voit par contre, effectivement, on peut être content que l'Iran est présent et soit présent aussi par la présence de son ministre des Affaires étrangères. L'Égypte est là et malgré toutes les dissensions qui existent, le Qatar, la Turquie et l'Égypte, ben tout le monde se retrouve. On peut espérer que ce soit une rencontre pour des solutions de paix et de respect des souverainetés de chacun des pays de la région, plutôt que des solutions de guerre et puis d'attiser des terroristes, enfin d'attiser les contradictions dans chacun des pays. Pour moi, en fait, a priori, on peut espérer que ce soit bon, mais a priori, ça ne le sera pas. Mais bon, il est important quand même que ces pays, ces peuples, les peuples de ces pays soient persuadés, et les peuples, que tous ces pays soient persuadés qu'ils ont les mêmes intérêts par le fait quand même qu'ils sont voisins géographiquement, qu'ils ont aussi des économies complémentaires, qu'ils arrêtent les hostilités et qu'ils coopèrent ensemble, c'est encore beaucoup mieux, et qu'ils cessent justement de soutenir terrorisme plutôt qu'ils s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Madame Midani, pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Paris pour rejoindre Maître Elie Adem, juriste international et analyste politique. Maître Adem, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation et bonjour à Madame Aïssar Midani.
Maître Adem, alors, en soi, là, il s'agit, comme Madame Midani l'a rappelé, d'une initiative positive, oui. L'organisation de ce sommet à Bagdad. Dans quelle mesure ce sommet pourrait, premièrement, désamorcer les tensions régionales et, deuxièmement, trouver des terrains d'entente, en effet, entre des pays qui sont, en quelque sorte, en désaccord?
Oui, écoutez, je suis tout à fait de l'avis de Mme Midani. C'est assez positif que cette réunion ait lieu, et puis surtout à Bagdad, qui essaye, en fait, de tenter d'être une sorte de catalyseur dans la région. Moi, je dirais que c'est un premier pas de médiation. Et comme toutes les médiations, c'est une tentative de permettre aux différents belligérants de s'asseoir autour d'une même table pour évoquer ensemble leurs divergences et tenter par la suite, lors des négociations qui doivent suivre, de trouver une issue et qui réglera leurs problèmes. Aujourd'hui, la chose la plus importante, je pense, c'est le fait de retrouver l'Arabie Saoudite et l'Iran assis sur une même table et discuter entre eux. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en début avril, une réunion entre les services saoudiens et des hauts responsables iraniens s'est tenue également à Bagdad sur l'initiative du premier ministre irakien qui, encore une fois, joue une sorte de catalyseur pour régler ces conflits. Donc maintenant, il faut espérer que cette médiation et ces négociations puissent continuer. Or, nous le savons que les États-Unis et puis leurs alliés font des pressions sur les différents pays pour ne pas parvenir à une véritable paix. Aujourd'hui, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, les pays du Moyen-Orient ont un intérêt à retrouver la paix, regagner leurs différents territoires et mettre un terme à ces différentes luttes. Mais malheureusement, nous le savons, il y a un contre-courant qui fait tout pour empêcher ces pays de se réconcilier et de trouver une issue. Nous savons, par exemple, que les États-Unis, c'est eux qui ont mis de l'huile sur le feu pour créer cette tension entre des pays musulmans, à savoir que l'Arabie Saoudite et l'Iran sont des pays, l'Arabie Saoudite totalement musulmane et l'Iran à majorité chiite, mais musulmane, qui sont entrés en conflit. Nous avons vu ce qui s'est passé au Yémen, qui également est un pays voisin de l'Arabie Saoudite. Nous avons vu les tensions entre les Wahhabites, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, et j'en passe. Eh bien, je regrette effectivement aussi, comme Madame Midani, que la Syrie soit écartée de ce processus, et je pense que malheureusement, la France n'a pas un grand mot à dire, et là, je rejoins également notre interlocutrice, Madame Midani, parce que la France est complètement écartée du Proche et du Moyen-Orient. Elle a été écartée de la Syrie et du Liban. Nous avons vu malheureusement que les efforts français ont été voués à un échec, car ce sont les Américains qui mènent la barre dans toute la région. Donc, tout en étant optimiste quant à la tenue de cette réunion, de ce sommet, et de lancer cette médiation en permettant aux pays de discuter entre eux, je reste très, très sceptique quant à l'évolution de ces négociations, compte tenu des pressions américaines et des pressions de leurs alliés et des différents services secrets qui travaillent dans la région pour empêcher l'aboutissement à un véritable, je dirais, accord de paix et de véritables négociations. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un danger qui menace l'ensemble de la région, c'est ce qui se passe en Afghanistan avec l'émergence des talibans, et nous le savons très bien qu'il y a une main invisible qui est celle des services américains et une stratégie américaine de créer un nouveau, je dirais, danger qui menace non seulement l'Afghanistan, mais d'autres pays tels que la Russie et tous les pays de l'Asie du Sud et l'Asie centrale, mais également l'Iran, la Chine, en lui barrant la route de la soie, mais également les monarchies donc du Golfe, et même, je dirais, la Turquie, avec une situation chaotique qui menace également la sécurité des pays européens, avec une poussée migratoire qui risque également de porter atteinte à l'équilibre démographique et puis à la stabilité économique et sociale du continent européen.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Atem, restez avec nous. Madame Midani, alors, je tiendrai à retenir deux choses importantes. D'une part, comme d'ailleurs l'a fait remarquer Maître Atem, alors les tentatives américaines de semer le chaos, de déstabiliser la région, et deuxièmement, bien sûr, la volonté des pays de la région d'établir des relations amicales en dehors de toute ingérence étrangère, comme d'ailleurs c'est une priorité annoncée par le nouveau président iranien, M. Ebrahim Raisi. Ceci étant dit, alors que signifie aujourd'hui la participation et la présence du président français, seul acteur extra-régional au sommet de Bagdad? Quel est le message de cette participation? Est-ce que M. Macron serait porteur d'un message de la part des Américains?
À mon avis, la France, effectivement, joue le rôle des Américains, le messager des Américains, comme on l'a vu d'ailleurs aussi au Liban. En fait, il est parti pour son propre compte, disons, mais très vite, il a été rattrapé par les Américains qui ont effectivement imposé un autre discours et même une autre réalité. Et en fait, effectivement, la France, malheureusement, elle est complètement elle est devenue presque le bras des Américains en matière de politique étrangère, mais essayant toujours de trouver une place pour elle-même, hein, parce que ce sont aussi quand même des nostalgiques de la colonisation. Et vous le savez bien, ils estiment qu'ils ont toujours quelque chose de spécial, ou ils doivent garder quelque chose de spécial dans les relations avec les pays du Moyen-Orient, comme la Syrie, le Liban, l'Irak, même la Palestine, hein, et même avec l'Iran. Et il faut voir quand même que la France est en déroute aussi sur le plan économique, hein, à cause justement de sa relation avec les États-Unis, qui lui impose de suivre des sanctions qu'elle met sur tous les pays. Donc la France suit les sanctions contre l'Iran, les sanctions contre la Syrie, les sanctions contre le Liban, etc., alors qu'elle aurait tout intérêt à lier des rapports complètement différents avec ces pays et des rapports de partenariat et de respect gagnant-gagnant, et puis effectivement qui aurait des retours aussi intéressants pour l'économie française que pour l'économie de ces pays. Mais malheureusement, effectivement, la France a les pieds et poings liés à la politique américaine, et elle n'arrive pas à s'en défaire, justement. Et je ne sais même pas s'il y a la volonté de s'en défaire. Et donc, elle est en train de couler même sa propre économie pour le bien de l'économie américaine. Bon, ça, c'est un point. Ceci dit, de l'autre côté, il est certain que le fait d'être là, tous les pays, en fait, aujourd'hui, ils de plus en plus sont convaincus aussi que la complémentarité économique et la continuité géographique sont quelque chose de très important à mettre en œuvre et à faire fructifier. Alors, de là, on voit par exemple l'ouverture du passage d'Ansib entre la Syrie et la Jordanie a fait plutôt plus de bien à la Jordanie qu'à la Syrie, mais en fait aux deux pays, mais aussi au Liban, puisque les denrées passent par la Syrie pour aller en Jordanie et pour aller aussi dans les pays comme l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe par le transport aérien. L'ouverture aussi du passage Al-Qayyim, Boukam al-Qaim entre la Syrie et l'Irak, et ils ont tout intérêt aussi, tous les pays, aussi bien la Syrie que l'Irak que l'Iran, ont tout intérêt à ce que ce passage soit ouvert. Mais on a vu à plusieurs reprises aussi que les Américains comme les Israéliens font tout pour casser cette continuité. Ils bombardent régulièrement, ils ont bombardé régulièrement pendant les 10 dernières années, non seulement les passages, mais aussi à chaque fois que l'armée syrienne ou irakienne arrivait à gagner en fait dans la lutte contre Daesh et à défaire Daesh pour ouvrir ses passages, elle se faisait bombarder par les Américains. Dernièrement, vous savez, les perturbations et l'ensemble des réactions terroristes à Dera aussi étaient liées à cette ouverture du passage de Ansib, qui voulait donc retarder l'ouverture du passage. Et ça, ce sont les Israéliens et les Américains aussi. Donc, il y a les Américains et les Israéliens ont tout intérêt à ce que les économies de cette région, tous les pays de cette région, s'effondrent, et pour que les Israéliens soient là les plus consistants.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Atem. Maître Atem, et pour vous, que représente la présence de la France, la présence du président français Emmanuel Macron au sommet de Bagdad?
Bien, écoutez, le président Macron, lors des débuts de son mandat, il a essayé de redorer le blason de la France et que la France reprenne une certaine position sur la scène internationale. Il avait réussi à le faire en début de son mandat jusqu'à un moment donné où les Américains ont tout joué pour réduire de nouveau le rôle de la France sur la scène internationale. Il l'a essayé dans le conflit donc libyen. Et puis malheureusement, il a eu un bras de fer avec la Turquie et la Turquie a reçu un feu vert de la part des Américains et elle est allée beaucoup plus loin en faisant quand même en déstabilisant la partie est de la Méditerranée. Et puis là aussi, la France a échoué dans ce conflit, dans son litige avec la Turquie, qui a quand même aussi affaibli le rôle de la France, le pays légal, dans cette partie du monde. Deuxième grand échec également de la diplomatie française et du rôle qu'elle a essayé de nouveau de jouer, c'était au Liban, où nous avons vu que le président français, qui s'est dépêché tout de suite, aussitôt après l'attentat de Beyrouth, et puis il a demandé la formation d'un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours, et ça fait plus d'un an que la situation est toujours la même, et comme l'a souligné Madame Midani, ça a beaucoup plus compliqué d'ailleurs les choses que de les régler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diplomatie parallèle, qui est la diplomatie américaine, qui joue sur les différents acteurs libanais, et de la même façon, qui joue sur les différents acteurs régionaux au Proche et au Moyen-Orient, et en particulier en ce qui concerne les pays concernés par ce sommet. Donc la France a essayé aujourd'hui, en profitant l'intérêt que les Américains portent plus pour l'Afghanistan qu'autre chose, de participer à ce sommet en essayant de nouveau d'avoir un droit au chapitre et de retourner sur la scène internationale. Merci. En particulier au Proche et au Moyen-Orient.
Maître Elie Hatem, juriste international et analyste politique depuis Paris. Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Téhéran pour une autre édition de la série d'émissions « Iran, pays des merveilles ». Nous allons poursuivre le tour dans la belle province de Charmahal et Bakhtiari. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dans la région de Kuhrang, à 12 km de Chelgird, l'une des principales attractions naturelles de la province de Charmahal et Bakhtiari est une vaste plaine de tulipes renversées, rouges et jaunes, s'étendant sur plus de 3400 hectares. Tous les printemps, des milliers de touristes se rendent à Farsan, dans la province de Charmahal et Bakhtiari, pour admirer entre autres les tulipes renversées qui fleurissent dans cette région. Cette plaine de tulipes jouit d'une plus grande renommée que d'autres sites naturels et touristiques de Kuhrang, comme la source de Kuhrang et de Dime, les cascades de Kuhrang ou la piste de ski de Chelgird. La source de Dime se trouve près du village de Dime, Son nom s'avère l'une des plus limpides et les plus suaves eaux de la planète avec des vertus curatives, selon les experts, en la matière. La source de Dimé, qui constitue en fait la source principale de Zoyanderout, englobe quelques sources l'une à côté de l'autre, créant un paysage très magnifique au milieu d'une grande plaine. Autour de la source se dressent de hauts platanes et chênes et d'autres arbres des régions froides, très attirants pour les touristes. La source de Dimé est aussi importante du point de vue archéologique. Des briques et des poteries ont été découvertes à ses alentours. La province de Chaharmahal et Bakhtiari compte également de nombreux étangs comme Chokahor, Gandoman, Ali Abad et Solkhan, qui ont donné à cette province une place importante du point de vue de l'environnement et des potentialités écologiques. Cette zone abrite des oiseaux migratoires et des poissons uniques. Elle constitue l'un des carrefours du passage des oiseaux migratoires qui viennent des pays européens, de la Russie, aussi bien que des provinces septentrionales de l'Iran pour aller vers les pays du bassin du golfe Persique. D'une superficie de plus de 23 000 hectares, l'étang international de Chokahor a été déclaré depuis 1999 zone protégée et zone de chasse interdite. Elle abrite 58 espèces de plantes et d'animaux aquatiques. L'étang est entouré d'une vaste prairie d'environ 700 hectares de superficie. Le pont Zaman Khan, un des anciens monuments historiques précieux de la province de Chaharmahal et Bakhtiari, se trouve sur la rivière Zoyanderout. L'esquisse du pont remonte à l'époque des Sassanides, mais le pont qui existe actuellement a été construit sous l'ordre de Zaman Khan, chef d'une tribu Rashraï. Parmi les autres attraits touristiques de la province de Chaharmahal et Bakhtiari, on peut citer de nombreuses grottes estimées à plus de 70. Les plus importantes, ce sont Pirgar et la grotte de Sarab. Pirgar est important vu les écriteaux gravés sur ses pierres. À 6 km de Farsan et à 38 km du sud-ouest de Shahrekord, se trouve un endroit très attirant pour les touristes. Sur une colline en pierre qui donne sur cet endroit, on remarque trois tablettes écrites en nastalir sous l'ordre de Khosrow Khan, décrivant un résumé de l'expédition des Bakhtiari vers Ispahan et Téhéran, ainsi que le rôle des généraux des Bakhtiari dans la répression du petit despotisme et de la chute du roi Mohammad Ali Rajar au cours de la révolution constitutionnaliste. Non loin de ces tablettes se trouve Pirgar et une fontaine très riche en eau. On compte 460 œuvres et monuments historiques recensés jusqu'à présent dans cette province, dont 17 ont été enregistrés sur la liste du patrimoine national de l'Iran. Ce sont des ponts historiques, des tablettes avec des gravures ou d'anciennes forteresses. Parmi d'autres, Gur Kani Tape, à 5 km du sud de la ville de Shahrekord, remonte à plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, où se trouve une tablette qui remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ, à côté de laquelle il y a une route que les experts disent faire partie du premier itinéraire pour transférer la culture et la civilisation suze à la plaine de Khuzestan dans le sud-ouest de l'Iran. Des bas-reliefs datant de l'époque élamite et des pièces de monnaie de l'époque des Samanides témoignent de l'ancienneté de la riche civilisation de cette région. La sculpture sur pierre et sur les parois rocheuses des montagnes est un art traditionnel iranien très ancien. On a ainsi retrouvé des bas-reliefs iraniens datant d'époques reculées sur les monts de l'Alborz et de manière plus importante sur les monts de Zagros, à l'ouest ainsi qu'au sud-ouest du pays, et dans les provinces comme Chaharmahal et Bakhtiari, Kokiluye et Boyarahmat, Khuzestan, Kurdistan, Kermanshah et Fars. Ces œuvres fournissent des informations historiques précieuses et diverses sur la civilisation, la culture et l'art iranien à des époques diverses. Elles dépeignent également différentes situations politiques et sociales, les évolutions historiques, les cérémonies royales, les guerres et les traditions religieuses. Quant au royaume élimaïte, il nous en est resté 15 ouvrages au cœur des monts Zagros. Ils comprennent des sujets religieux élimaïtes et non religieux. Des scènes religieuses sont représentées dans les bas-reliefs de Tangye Botane Shimbar, à 56 km du nord-est de Masjid Soleiman au Khuzistan, de Tangye Sarvak, de Dehdasht à Kokiliye Boyer Ahmad, de Shirinu Mouri de Bazof Takurang, de Sheivand au pied nord du mont d'Izé, de Koulfarah au camp de Souzan Izé et du mont Taraz à Bazoft. Des scènes non religieuses peuvent être vues dans les bas-reliefs découverts du nord et du nord-est d'Izé. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre fidélité et de votre écoute. La prochaine fois, nous vous parlerons des jardins persans. Soyez donc nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Thank you.